Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro. Je vous propose dans cet épisode de regarder combien les GAFAM, les géants de la tech, gagnent chaque minute. Amazon, Apple, Google, Facebook, ils génèrent chaque seconde un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. On va décrypter l'incroyable succès économique et entrepreneurial des entreprises les plus puissantes au monde. C'est une infographie publiée sur le site statista.fr qui a attiré mon attention pour cet épisode. Cette infographie, elle présente le chiffre d'affaires généré chaque minute par 7 acteurs majeurs de la tech. Amazon, Apple, Alphabet, donc Google, Microsoft, Facebook, Tesla et Netflix. Alors elle date de plusieurs mois, mais les chiffres mis en avant sont vraiment stratosphériques et en plus ils sont devenus plus importants sur les derniers mois. Alors ces super-héros de la tech, hein, ces GAFAM, hein, c'est vraiment des géants au pied d'argent, hein, ils sont pas au pied d'argile ceux-là, vous allez voir, ils ont des fortunes qui sont complètement folles. Déjà on a la suprématie de 3 entreprises, c'est ce qu'on va appeler le triple A, hein, Amazon, Apple et Alphabet. En 60 secondes, Amazon cumule près de 700 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, en une minute, Amazon fait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Apple, deuxième position, toutes les 60 secondes, c'est 573 000 euros. Et ensuite, Alphabet Google, c'est 353 000 euros. Alors, chaque minute, les triple A emmagasinent à elles seules plus de 1,5 million d'euros. C'est énorme, hein, c'est colossal. Il y a beaucoup d'entreprises hein, déjà qui aimeraient bien faire 1,5 million d'euros par an. Bah, eux, c'est par minute. Hein. En quatrième position, un peu au retrait, on trouve Microsoft, 266 000 euros. Facebook, un peu en retrait aussi, hein, 167 000 euros. Fait toutefois encore partie des 5 entreprises qui cumulent plus de 100 000 euros de vente par minute. Et ensuite, top 6, top 7, on a Elon Musk avec les Tesla, 66 000 euros par minute, et Netflix, 45 000 euros. Alors si on additionne ce classement des 7 entreprises de la tech, là, on a la somme de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par minute. Ça donne quand même un peu le vertige. Alors qu'est-ce qu'on peut s'offrir avec 2 millions, les amis? Alors, on se fait plaisir, on a 2 millions, allez on prend. Ils nous donnent, ils sont sympas, ils vont nous donner une minute de leur chiffre d'affaires, ils nous donnent 2 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 2 millions? On peut acheter un 2 pièces à New York. Voilà, j'étais sur le site Barnes New York City. Vous allez sur le site Empreinte Digitale, voilà, dans l'épisode qui héberge le podcast, il y a un lien. Vous irez voir. Voilà, il y a des apparts sympas à New York, hein, des 2 pièces pour 2 millions. On peut s'en offrir un. Alors déjà, ça me ferait rêver personnellement. Mais il y a peut-être un truc encore un peu plus atypique. Pour 2 millions de dollars, on peut s'offrir 4 allers-retours sur Mars avec SpaceX. Voilà. Je vous ai glissé un tweet d'Elon Musk qui disait en février qu'il estimait que le prix d'un aller-retour sur Mars, ça devrait coûter à peu près 500 000 dollars à terme. Voilà. Voilà, ça peut peut-être vous donner des idées pour vos prochaines vacances. En tout cas, sinon, vous contactez Elon de ma part. Il ne me connaît pas et il ne vous donnera pas suite. Mais enfin, si vous voulez, vous pouvez tenter de le faire. Alors, on va retenir 3 leçons à la fois d'ordre économique, stratégique et entrepreneurial. Déjà, Amazon, hein, le premier, dans l'histoire moderne, il y a déjà peu d'entreprises qui ont autant bousculé le commerce mondial hein, que Amazon. Fondé en 1994 par Jeff Bezos, vous le savez, dans son garage à Seattle, c'est devenu un monstre, hein, clairement, en plus de 2 décennies. Aujourd'hui, ça pèse plus de 1700 milliards de dollars en bourse, et ils ont dégagé en 2021 un chiffre d'affaires de près de 470 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB de la Norvège ou des Émirats Arabes Unis. On rigole pas quand même hein, en termes de valorisation là. Alors le business model d'Amazon, il est super simple, en fait, il repose sur 4 piliers. Tout d'abord, un choix quasi infini de produits. Hein. Vous allez sur Amazon, vous trouvez quasiment tout, quoi. Même des vieux articles, des choses d'occasion, etc. On trouve quasiment tout sur Amazon. Ensuite, des prix qui sont quand même relativement compétitifs. Hein. Casse les prix, Amazon, toujours. Ensuite, il y a des livraisons qui sont rapides, clairement. Hein. C'est énorme, le service livraison d'Amazon. Même le dimanche, autre jour, j'avais commandé un truc. Il est arrivé le dimanche, ok, c'est incroyable. Et puis enfin, une approche customer-centric, qui passe notamment par tout ça, hein. Choix quasi infini, des prix compétitifs, livraison rapide, mais aussi la satisfaction client, toujours, toujours, toujours au cœur du business. Voilà. Ça, c'est la stratégie de Bezos aussi. Hein. Alors, c'est une stratégie vraiment gagnante qui fait aujourd'hui sa société l'une des entreprises les plus puissantes au monde. En tout cas, donc, elle génère, vous l'avez compris, près de 700 000 euros de chiffre d'affaires par minute. C'est tout simplement stratosphérique. Deuxième entreprise, c'est Apple. Alors, si vous êtes né dans les années 80, je ne sais pas quel âge vous avez, si vous êtes né dans les années 80, vous vous souvenez certainement de la bataille épique que se livraient les deux Golden Boys de la côte ouest, Steve Jobs d'Apple et Bill Gates Microsoft, à la fin du siècle dernier. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de connaître cette époque incroyable, ou si vous souhaitez revivre ces moments-là, je vous recommande de lire la biographie officielle de Steve Jobs, qui a été écrite par Walter Isaacson. Vous la trouvez en livre de poche sur Amazon, tiens, ou à la Fnac. Ça va vous coûter moins de 10 euros. Plongez-vous dans cette histoire, c'est tout simplement incroyable. Si vous n'avez pas connu ça, ou si vous l'avez connu, vivez ces moments-là, c'est tout simplement fou. Vous allez replonger, clairement, hein, dans le détail de ce combat sans merci, hein. L'issue, c'était tout simplement, c'était pas rien, c'était quand même qui sera le leader mondial de l'ordinateur personnel. Alors, à ce petit jeu, c'est Bill Gates qui s'est montré le plus fort en premier. Au début des années 2000, Microsoft équipait plus de 80% des ordinateurs dans le monde avec son Windows, et Apple était au bord de la faillite en 97 lorsque Steve Jobs revient aux manettes. 20 ans plus tard, la gang a changé de camp. Apple s'est devenue une marque incontournable. Elle propose aujourd'hui les produits tech les plus populaires au monde. iPhone, MacBook, iPad, AirPods, voilà. Aujourd'hui, clairement, c'est Apple qui a la suprématie. Hein. Apple, chaque minute, génère deux fois plus de ventes que Microsoft. À tel point qu'en 2021, Apple a engrangé un chiffre d'affaires annuel, accrochez-vous, de 366 milliards de dollars. Alors, si on arrondit un peu à 365 milliards de dollars, ça veut dire que Apple gagne 1 milliard de dollars par jour, 41 millions de dollars par heure et près de 700 000 dollars par minute. Vous vous rendez compte, c'est complètement fou. Microsoft avait remporté le premier round dans les années 80, bah Apple a remporté le round final par KO dans les années 2000-2020. On va décrypter une troisième entreprise, c'est Alphabet. Alors Alphabet, c'est le nom de cotation de Google. Alphabet, c'est le groupe. Hein. Google regroupe plusieurs entreprises, dont Google, et la structure globale s'appelle Alphabet. Google, c'est plus récent. C'est l'année où Steve Jobs revient aux affaires hein, chez Apple, qui a deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, qui lancent un nouveau moteur de recherche qu'ils vont appeler Google. Alors à l'époque, le marché de la recherche en ligne, il est dominé. Hein. Il y a des acteurs déjà qui sont là, comme Yahoo, AltaVista, Lycos, pour les plus anciens. Vous vous rappelez peut-être de ça. Mais leur algorithme est tellement excellent qu'ils vont avoir un développement ultra rapide, à tel point qu'ils vont rapidement fournir les résultats de recherche de Yahoo à la fin des années 90. Et le véritable tournant, le succès arrive vraiment en 2000, quand ils lancent le système des mots-clés payants AdWords. La cash machine de Google était née. Ils vont s'émanciper de Yahoo. Ils vont rapidement cannibaliser le marché mondial du search, au point d'entraîner à la faillite leurs principaux concurrents. Alors Microsoft va tenter quand même de contrer l'hégémonie Google. Ils vont s'allier avec Yahoo pour lancer leur moteur de recherche Bing en 2009. Mais c'est pas vraiment un succès, ça marche pas Bing, ça marche toujours pas aujourd'hui. En revanche, en 20 ans, Google est devenue l'une des entreprises les plus puissantes et les plus rentables au monde. Et c'est une recette qui repose avant tout sur la publicité en ligne. C'est un secteur qui devrait rapporter cette année plus de 170 milliards de dollars à Google cette année, c'est-à-dire 30% du gâteau de la publicité en ligne. Vous prenez toutes les budgets de la publicité en ligne sur toute la planète et vous en donnez 30%, c'est la part de Google. Le deuxième, c'est Facebook qui vient juste après, il est par un petit peu plus petite, mais c'est quand même pas mal, c'est 23%. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils ont plus de la moitié des budgets communication de toutes les entreprises au monde pour la pub en ligne. C'est complètement incroyable et jamais vu dans l'histoire moderne. Alors, on va regarder encore une entreprise, Elon Musk. Alors voilà, Elon Musk est le self-made man. Hein. Ce classement des 7 entreprises de la tech les plus dynamiques sur le plan économique, ça laisse une place de choix donc à cet entrepreneur génial, le Sud-Africain, naturalisé américain en 2002, Elon Musk. Il part de rien, puis en 20 ans, c'est un visionnaire incroyable, il a la vista, il a le sens du business, et il se retrouve impliqué dans 3 entreprises mondialement connues et disruptives comme PayPal, Tesla ou SpaceX. Alors PayPal a révolutionné les paiements et les transferts d'argent en ligne en son temps. Tesla a transformé l'économie du secteur automobile. Ils ont ringardisé au passage les anciens fleurons du secteur, hein, comme General Motors ou Ford. Et puis SpaceX est venu détrôner la NASA sur le secteur de la conquête spatiale. Alors quand il s'implique dans Tesla, c'est pas lui qui a fondé Tesla, hein, Elon Musk. Hein. Il a investi dans Tesla une partie des fonds qu'il avait gagnés avec la revente de PayPal. Donc quand il investit dans Tesla, il fait un pari super ambitieux mais risqué, c'est celui du véhicule électrique. Et à l'époque, beaucoup pensaient que c'était vraiment impossible d'innover sur ce marché. Il y a des barrières à l'entrée qui sont énormes, barrières financières, barrières technologiques, barrière concurrentielle. Enfin, c'est quand même un secteur pas simple, hein. C'est pas le search en ligne, hein, malgré tout. C'est quand même beaucoup plus complexe. Il faut des usines, il faut des brevets, il faut beaucoup d'innovation. C'est très coûteux tout ça. Mais il réussit son pari. Début 2001, Tesla est devenue la première capitalisation boursière de l'automobile. 700 milliards de dollars. Voilà. Tesla, aujourd'hui en bourse, ça vaut plus que Toyota, Volkswagen, General Motors, BMW et Ferrari réunis. Vous imaginez? C'est vraiment succès pied au plancher pour Elon, hein, parce qu'il est vraiment un entrepreneur hors norme. Et puis ce qu'il fait aujourd'hui avec SpaceX, c'est carrément bluffant, quoi. Alors on va regarder encore un autre acteur, Netflix. Netflix qui est vraiment sous le feu des projecteurs, là. Lui aussi en quelques années, hein, Netflix a réussi à ubériser un pan entier de l'économie qui semblait intouchable, le cinéma. Alors l'entreprise, elle est créée en 1997 dans la Silicon Valley. C'est deux hommes qui s'appellent Reed Hastings et Mark Randolph qui ont l'idée. Je vous invite à lire la biographie de Mark Randolph, notamment, qui est vraiment passionnante. J'avais fait un podcast sur cette histoire. Je vous remets le lien là encore en bas de cet épisode. Ils ont une idée géniale qui va transformer définitivement le secteur à la fois donc du cinéma, mais aussi de la télévision, hein. Au début, Netflix, ils louent des DVD et les envoient par courrier. Mais ils se rendent compte que c'est pas évident, le business, il est pas extraordinaire. Ils vont changer leur business model et ils vont modifier en même temps notre façon de consommer le petit comme le grand écran pour s'imposer aujourd'hui comme le leader du streaming vidéo. C'est fini les soirées où les gens regardaient le synchro-saint film de 20 heures de TF1 ou de Canal+. Maintenant, place aux séries inédites produites par et pour Netflix. Alors la société, elle est basée en Californie, est-ce que j'ai besoin de le dire? Los Gatos, évidemment c'est en Californie, hein, comme toutes ces entreprises. Elle a investi en 2020 20 milliards de dollars dans la création de contenu. Vous vous rendez compte? Et la réussite est vraiment au rendez-vous, il y a un public qui répond vraiment massivement. Aujourd'hui, ils ont un dynamisme financier qui leur permet de rivaliser avec les plus grandes sociétés de production cinématographique et parfois même de les dépasser. En Netflix, en trois chiffres clés, c'est 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est un montant qui a doublé depuis 2017, vous vous rendez compte? Près de 3 milliards de dollars de résultats nets et un cours de bourse en hausse de 500% sur 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, ils ont plus de 200 millions d'abonnés payants et ils sont devenus en 25 ans donc cet acteur incontournable du divertissement. Alors eux aussi, ils ont une recette secrète et elle est super simple. Bah, ils ont tout simplement révolutionné le marché de la VOD en inversant l'offre et la demande. Voilà. Avec ses algorithmes, Netflix sait précisément ce qui plaît ou pas à ses utilisateurs. Quelles sont ses attentes, notamment en matière de séries. Donc, conséquence, elle crée son offre en fonction de la demande. Voilà. C'est exactement l'opposé des producteurs comme Universal Studios ou Paramount. Ils produisent leurs films sans connaître précisément les vraies attentes du public. Et souvent, il y a des échecs, hein, il y a des échecs commerciaux, il y a des films qui ne marchent pas du tout. Netflix, bah, ils ont de la data, ils savent bien l'exploiter, comme l'a fait Amazon avant eux. Et ils ont pu ainsi disrupter un marché dans un premier temps pour le dominer ensuite. Voilà. Le principe, c'est l'inverse, vous l'avez compris. C'est qu'on se sert de la data, on analyse les attentes des consommateurs et on propose des contenus en fonction de leurs attentes. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous évitez les ardoises industrielles. C'est une méthode imparable, hein, clairement, et ça a propulsé Netflix tout en haut de l'affiche. Si vous me permettez ce petit jeu de mots. Alors pour terminer, on va regarder trois leçons à retenir de ces incroyables succès commerciaux. Tout d'abord, les fondateurs de ces sociétés ont osé tenter l'aventure. Que ce soit Elon Musk, Steve Jobs, Reed Hastings, Jeff Bezos, Bill Gates, ils ont tous eu le courage à un moment de lancer leur idée. Les marchés qu'ils visaient, ils étaient parfois seulement au balbutiement, hein. On pourrait penser là à Bill Gates par exemple, ou à Steve Jobs. D'autres étaient déjà trustés par des mastodontes, là on pense à Elon Musk, là, quand il arrive, il y a déjà du monde sur le secteur automobile. Ça ne les a pas empêchés de tenter l'aventure, comme David face à Goliath, avec le succès à la clé. Donc déjà la première chose, le premier point commun, c'est qu'ils ont osé tenter l'aventure. Ensuite, il y a une prime à l'audace et à la prise de risque, clairement, hein. Les amis, franchement, vous auriez parié sur Amazon à leur début en 94. Internet, c'était encore un truc de techno, quoi. C'était pas du tout une technologie grand public. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les geeks, un peu. Qui aurait parié sur Amazon en 94? Qui aurait parié sur Netflix lors du lancement de son service VOD, alors que tous les grands studios américains contrôlaient l'industrie du cinéma et du divertissement? Vous imaginez le poids lourd en face d'eux? Le Goliath qui était là en face? Qui aurait parié aussi sur Tesla? Quand on pense aux barrières économiques et technologiques qui étaient immenses pour un nouvel acteur sur le marché des véhicules électriques. Et bien pourtant, prime à l'audace, prime de risque, ça a payé. Ça c'est vraiment avéré payant. Et aujourd'hui, vous avez vu leurs résultats incroyables. Troisième point, le triomphe de la persévérance. Voilà. Toutes ces success stories ont connu des moments difficiles. Elles ont eu leurs hauts, elles ont eu leurs bas, et c'est ce qui fonde aussi des histoires d'entreprise et qui leur permet de grandir. Le premier business model de Netflix, j'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, c'était l'envoi de DVD par courrier. Ah, c'était pas un business génial, hein. On ne pouvait pas vraiment l'imaginer se développer à long terme, à grande échelle, et puis au-delà des États-Unis, hein, c'était un peu complexe. L'entreprise, elle a su pivoter pour révolutionner son secteur et devenir en quelques années le numéro un mondial du streaming. Au début, sur l'idée de base, c'était pas gagné. Ils ont dû persévérer. Steve Jobs aussi, il s'est fait évincer d'Apple 1 en 85, et puis il va revenir pour en reprendre les rênes 12 ans plus tard. Ensuite, il va lancer l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Autant de produits techno qui ont transformé notre quotidien. Pour ça, il a dû persévérer. Larry Page et Sergey Brin, ils ne sont pas découragés. Hein. Le jour où ils ont rencontré David Filo, c'était le cofondateur de Yahoo, ils vont lui présenter leur techno. Ils refusent de les aider à financer leur projet. Pourtant, c'est novateur, c'est révolutionnaire. Il aurait peut-être dû, en tout cas 25 ans plus tard, que serait le web, les amis, aujourd'hui, sans Google, hein. Et que serait le web aujourd'hui, du coup, si Larry Page et Sergey Brin n'avaient pas persévéré. Alors voilà, tous ces exemples nous montrent que les plus grandes réussites entrepreneuriales ne se sont pas bâties sans problème, ni échec, sans changement, ni remise en cause. Elles sont le résultat de trois valeurs: avoir le courage d'oser, prendre des risques et persévérer. Voilà, c'est une véritable leçon de vie qui, je l'espère, vous inspirera pour vos prochains projets. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à l'échanger sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me taguer @empreintedigitale. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur Apple Podcasts, vous pouvez laisser une note et un commentaire. Si vous êtes sur SoundCloud, vous pouvez laisser un like également. Et puis enfin, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner à la newsletter si vous souhaitez être tenu informé des prochains épisodes et de toute l'actu du podcast. Vous allez sur l'empreintedigitale.com, tout en haut sur newsletter, où je vous mets le lien, pareil, en bas de ce podcast. Merci beaucoup les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!